Debra François, bonjour. Donc après être juré à la Baule sous la présidence de François Berléand, vous vous retrouvez à Cannes, de nouveau dans un jury, pour L'Œil d'Or, le prix du documentaire, un genre un peu mal aimé et pourtant essentiel, non ?
Moi, c'est vraiment un genre que j'adore. Je pense que je vois au moins autant de fiction que de documentaire, en réalité, dans ma vie de tous les jours. Donc quand ils me l'ont proposé, et ils ne le savaient pas en plus en me le proposant, et du coup, je leur ai dit, vous êtes tombé sur la bonne personne.
Alors, finalement, ce n'était pas une promenade toute tranquille, c'était plutôt un marathon quand j'ai vu. Quoi. Vous avez 32 films en compétition, toutes sections confondues.
On en a 29, et ouais. C'est vrai que c'est comme le principe, c'est comme la caméra d'or, c'est que c'est l'œil d'or, ouais. C'est voilà, dans toutes les sections. On voit des choses en cadre classique, dans hors compétition, un certain regard, la quinzaine des réalisateurs, enfin, on les voit un petit peu partout. Et c'est vrai que ça fait du coup une sélection qui est hyper éclectique, quoi.
Est-ce que par section, on sent des thèmes plus particuliers ou vous voyez une différence? Ou finalement, un documentaire, c'est un documentaire, quel que soit...
Non, ils ne sont pas regroupés par thème selon les sections. Après, cette année, il y a une nouveauté, et c'est pour ça aussi qu'on en a autant. C'est que cette année, Cannes a décidé de mettre en place une sélection de films sur l'écologie. Donc il parle de tout ce qui balaye un petit peu tous les thèmes écologiques. Et c'est vrai que dans cette sélection, il y a 6 documentaires et une fiction. Donc du coup, nous, les 6 documentaires, on les voit. Donc c'est vrai qu'on en a au moins 6 qui sont sur le thème de l'écologie. Mais après, c'est tellement large l'écologie. Enfin, il y en a sur le réchauffement climatique, d'autres sur la préservation des espèces, d'autres sur le nucléaire. Ça balaye quand même large.
Alors je trouvais qu'il y avait aussi un des thèmes, c'est la musique. J'ai repéré notamment Velvet Underground, Jane par Charlotte et El Montant. Donc c'est une tendance ou c'est le hasard
Non, je crois que c'est une tendance en général dans le documentaire aussi. Il y a beaucoup de documentaires qui se font sur la musique, sur les groupes. C'est des choses qui intéressent beaucoup les gens. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à faire des documentaires sur des gens qu'ils aiment et qu'ils admirent. Et souvent ça peut être des musiciens.
Alors, il y a quand même un devoir de mémoire dans le documentaire, une mission éducative, mais parfois ça amène à la limite à devoir potasser au préalable. Quand on voit le film d'Oliver Stone, c'est quand même assez ardu, non ?
Ah, c'est drôle parce que moi je ne l'ai pas trouvé ardu en l'occurrence parce que c'est un thème que j'ai vu beaucoup déjà en documentaire. En fait, j'ai vu énormément de choses sur le sujet. Donc c'est vrai que moi, je n'ai pas pensé que c'était ardu. D'autant qu'il fait quand même... Le film commence par un récapitulatif. Il récapitule pour les gens qui savent pas, justement. Donc moi, j'ai trouvé ça finalement très accessible. En fait, c'est très accessible, c'est très grand public.
Avec de nouvelles révélations.
Avec de nouvelles révélations, tout à fait. Et moi qui adore les enquêtes, si vous aimez les enquêtes, je vous le conseille. Voilà.
Documentaire aussi, c'est un peu l'envers du décor, comme le très beau documentaire sur Val Kilmer.
On parlait tout à l'heure de gens qui admirent. Il y a forcément aussi des acteurs, et c'est vrai que celui sur Val Kilmer est un peu particulier parce que on part en fait d'images que lui a filmées lui-même de toute sa vie. Val Kilmer est un acteur qui a documenté, je ne savais pas avant de voir le documentaire, qui a documenté toute sa vie. Donc c'est vrai qu'il y a des images de lui à partir de ses 17 ans jusque maintenant, quoi. Donc le réalisateur a fait un montage entre ça, expliqué, il a tourné d'autres images, enfin, c'est un espèce de melting pot. Mais il y a beaucoup ça dans les documentaires, il y a des images qui viennent d'un peu partout. Donc c'est pas, on a des choses avec des documentaires qui sont des images qui sont très léchées, très posées, très cadrées. Et puis d'autres, selon les sujets, ça peut être des images d'époque ou ça peut être des images, il y a des moments qui sont peut-être tournés à l'iPhone ou tournés dans une image qui n'est pas forcément d'une grande qualité d'image, mais la qualité de ces poids, images, ça va être le poids, ça va être vraiment le fond, en fait, ce qu'il y a derrière le témoignage.
Val, c'est coproduit par les enfants de Val Kilmer, un bel hommage, non ?
Oui, c'est joli, forcément. Mais il y a eu beaucoup de... S'il y avait un thème qui ressortait, on a eu pas mal de choses, de documentaires sur la famille aussi, ou d'autoportraits.
Alors, votre actu, vous êtes sur tous les écrans depuis déjà quand même quelques mois. Allez, on va essayer de reprendre. L'école de la vie que vous avez présentée à Monte Carlo au mois de juin, coproduction de la RTBF, qui parle de la vie des profs et des élèves. Vous êtes Clémence.
D'ailleurs, j'étais très contente qu'il passe en Belgique, parce que comme ça n'a même pas été le cas de tout ce que j'ai fait toutes ces dernières années, j'étais contente que ma famille puisse le voir.
Ouais. Vous connaissiez la série québécoise ?
Non, je ne connaissais pas du tout. Et je crois que c'est mieux, parce qu'en plus, on n'a pas fait du tout le... C'est pas du tout le même format. Série québécoise est une série qui est journalière, et pas... nous, on en a fait 6 épisodes. Moi, je n'avais pas vu la série documentaire. Qui est moi j'avais pas vu la version québécoise, et c'est vrai que ça, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment le format, parce que quand on fait en 6 épisodes, forcément, ça se découpe, l'intrigue, la narration se découpe différemment.
Alors, Le bruit des trousseaux, c'est France 2 qui l'avait diffusé en avril, de Philippe Claudel, une adaptation de son roman.
Non, il n'a pas encore été diffusé.
Ah, il l'avait annoncé pour avril, là. Non.
Non, il n'a pas encore été diffusé.
Ah ben voilà.
Il est encore dans les tiroirs.
Il est encore dans les tiroirs.
J'attends avec impatience qu'il sorte.
Deux univers, donc le monde carcéral et celui du jeune prof là. C'est pas vraiment une comédie là.
Vous confondez pas avec Les Héritières ?
Non, pas encore. Non. Le bruit des trousseaux. Non, on n'est pas dans le milieu carcéral.
Ah si, bien sûr. Si, c'est issu du roman de Philippe Claudel, ouais. Qui est donc le réalisateur également. Et c'est un roman qui est une partie un peu autobiographique de sa vie. Après, il l'a romancé un tout petit peu pour le passer à l'écran, notamment mon personnage. Mon personnage est le seul personnage fictionnel de la fiction. Voilà.
Donc, Philippe était prof de français.
Philippe était prof de français en prison pendant plus de 10 ans.
Et c'est dur aussi quand même, non ? C'est pas vraiment une comédie, non ?
Non, c'est pas une comédie, mais à la fois il y a des choses très tendres. Moi, j'ai trouvé le scénario justement très tendre. On est vraiment sur les rapports humains. C'est pas une histoire de la prison, en fait. On est avec cet homme qui justement entre et sort de prison. Cette espèce de trait d'union qui est assez particulier, parce qu'il n'est pas non plus à la place d'un gardien. Donc c'est vrai qu'il a un point de vue à la fois sur l'intérieur et sur l'extérieur de la prison qui est tout à fait particulier. Et mon personnage, en l'occurrence, le raccroche vraiment à la vie à l'extérieur de la prison, alors que lui va avoir tendance à glisser vers les détenus et à glisser vers lui-même, vers une forme d'enfermement. Donc moi, j'ai essayé de le récupérer et de le tirer vers moi et vers la vie du dehors, qui est finalement sa vie.
Les Héritières, justement, donc pour la plateforme Arte, Madame Lebel. C'est vous ?
Oui, c'est moi. Je suis Madame Lebel, c'est moi la CPE.
Et donc on va se retrouver avec des jeunes adolescentes de banlieue, avec un programme de réinsertion, enfin pas, non, d'adaptation à un établissement renommé, c'est ça ?
Oui, c'est
sujet
ça.
Sujet aussi grave, mais décidément.
Oui, mais d'ailleurs, mais moi j'aime bien les sujets sociaux, dans le sens où j'aime bien que ce que je fais est du corps et du fond, en fait, qui est un message, mais... Je pense que le film est très accessible. Il a été fait justement pour pouvoir être vu et par les adolescents et par leurs parents. Et peut-être comme l'école de la vie d'ailleurs, créer du dialogue en fait entre les générations. Et pour mes amis belges, mes compatriotes, CPE, c'est préfète d'éducation en Belgique. Voilà.
Alors, on poursuit. M6, bientôt, Sauver Lisa. Beau casting féminin, c'est quand même assez rare quand même, non ? Donc Caroline Anglade, Victoria Abril, Sina Rialli et vous. Peu courant dans le choix, une girl power tout d'un coup
Ouais, je sais pas, parce qu'en même temps, quand on fait des films sur des équipes de foot où on se pose pas la question si c'est manpower, donc non, il se trouve que le thème principal, c'est la maternité. Donc forcément, c'est difficile de mettre un homme dans les rôles principaux. Désolé, messieurs.
Et là, c'est le récit d'une cavale d'une enseignante pour protéger une fillette victime de maltraitance. Et là, vous n'avez pas un rôle très sympa, mère abusive, Julie Berthaud. Vous n'avez pas d'a priori comme ça quand on vous propose un rôle peut-être un peu plus dur que d'autres
Mais moi, non. Au contraire, j'ai trouvé ça assez génial parce que moi, ayant, on le sait évidemment en Belgique, j'ai commencé en jouant la maman dans L'Enfant des Frères d'Ardennes. Donc forcément, les rôles qui tournent autour de la maternité ou les rôles de mère, ça me touche, ça me parle. Et surtout, on m'avait surtout proposé des rôles de mère plutôt positifs, en fait. Justement, en se basant sur ce côté peut-être assez doux et assez maternel que je peux avoir. et là, prendre le contre-pied, en fait, et jouer justement cette maternité complètement déchirée, cette femme qui elle-même se fait maltraiter par son compagnon et qui maltraite sa fille. J'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait, de jouer l'autre face de cette pièce. Parce qu'il y a ça aussi dans la maternité, si on prend ça dans son ensemble. Il faut aussi explorer ça. Et moi, la maltraitance faite aux enfants et la violence intrafamiliale, je pense que c'est un thème qui est essentiel dans la société. Donc je trouve ça important d'en parler et de l'exposer à l'écran.
Et là, c'est inspiré d'une fiction japonaise. Oui. Vous l'avez vu ?
Non, je ne l'ai pas vu non plus parce qu'ils ne nous l'ont pas proposé. Et que, en fait,
on n'a pas cherché à le voir.
Non, c'est que c'est pas sous-titré, en fait. Il n'y a pas de sous-titre en anglais.
Oui, c'est plus dur, là.
Donc du coup, japonais, c'est vrai que voilà, moi, je parle anglais et espagnol. À la limite, je peux faire d'autres efforts pour d'autres langues. Mais japonais, c'est vrai que c'est très, très loin de moi, pour le coup.
Et alors, vous avez tourné en mai Les Particules élémentaires, adaptation de Michel Houellebecq. Beau casting aussi quand même, hein, Pascal Arbillot, Patrick Neal. Non, mais je trouve que c'est quand même de grands choix, Guillaume Guis. Et là, vous êtes Annabelle, L'amour de jeunesse.
Oui.
Vous avez lu le bouquin de Houellebecq ?
Je l'avais pas lu, non, jusque-là. Et c'est vrai qu'en le lisant après, il y a eu pas mal. Enfin, c'est une adaptation qui reste assez proche de l'histoire originelle. Mais c'est vrai que pour adapter ce bouquin, qui est un bouquin tellement foisonnant, qui raconte à la fois, où il y a des flashbacks, en fait, on est vraiment entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte de ces trois personnages, en fait, ces deux frères et Annabelle. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'adaptations. Enfin, les scénaristes ont eu énormément de travail pour pouvoir le faire en deux parties, en deux épisodes, et que ce soit cohérent, et que ce soit concis, et qu'on reste quand même fidèle au roman.
Vous êtes parti en Irlande ?
Non, moi malheureusement non. J'ai eu la chance de tourner en Irlande pour un autre film, Never Grow Old, donc du coup ça va. Mais cette fois-ci, c'était pas moi.
Et bien, j'ai quand même parlé de ce film-là, sorti en 2019, avec John Cusack. Racontez-nous un petit peu quand même.
Et Emile Hirsch.
Et Emile Hirsch.
Ouais, ouais.
Et Sam Lowek et Anouk Hussein.
Ouais. Tout à fait. C'était une vraie expérience. Hein. Moi, j'adore tourner soit dans des pays étrangers, soit dans des langues étrangères. Donc là, c'était la méthode américaine. C'était un tournage très dur parce que c'était en hiver. Je me souviens que c'était moi, je l'appelais de mud shooting. Ça veut dire le tournage boueux. Donc, parce qu'on avait de la boue, mais par-dessus la tête. Il faisait super froid. Donc, les conditions ont vraiment aidé au film, en fait, aidé à amener cette ambiance assez glacé d'un western, non pas dans des grandes plaines pleines de sable comme on a l'habitude peut-être de voir, mais dans quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus boueux, de peut-être plus dur, plus rêche, et j'adore le résultat, j'adore ce film.
Je crois que c'est là qu'Anne m'avait dit qu'elle avait fait du cheval.
Non, oui, aussi. Il y a des chevaux, il y a des enfants, il y a des costumes d'époque, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une galère.
John Cusack, allez, une petite anecdote quand même sur la personnalité de l'acteur.
Ah oui, on s'est très bien entendu avec John, on a beaucoup parlé en fait. C'est quelqu'un de très engagé politiquement parlant. Et du coup, comme moi je suis plutôt engagée aussi, on a beaucoup parlé du travail qu'il avait fait sur John Snowden, parce que ça a été une des premières personnes en fait à rencontrer Snowden quand il est parti des États-Unis. Donc ça m'a fascinée, parce qu'il a écrit un livre, il a co-écrit un livre de témoignages de Snowden. Donc moi je lui ai tout de suite parlé de ça, et du coup il a beaucoup aimé le fait que je lui en parle, que j'ai lu le bouquin, et on est parti là-dessus.
Déborah, un grand merci. Donc L'œil d'or, ce sera pour samedi après-midi, et on attend les résultats.
Merci.